Salut tout le monde, vous êtes bien sûr RTF 95.4 MHz et puis je vous l'ai dit chaque fois, le DAB, le podcast, etc., etc. Voilà, en tout cas c'est toujours les barricades mystérieuses et c'est une émission qui est consacrée à la musique classique et à la littérature, en tout cas aux livres. Les livres de cette émission sont tous les deux du même auteur, ou je devrais dire de la même auteure ou de la même autrice, on ne sait plus ce qu'il faut dire. Enfin bref, Virginie Linard, l'effet maternel, et Virginie Linard, une sale affaire. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure. J'ai choisi de chroniquer ces deux livres qui parlent de la même chose tous les deux, mais qui ont montré comment la justice pouvait intervenir dans la littérature. Voilà. Et puis, écoutez, beaucoup de musique classique, comme d'habitude, un peu de toutes les époques et un peu de tous les genres. Voilà, on entendra de la flûte, on entendra du piano, de l'orchestre, etc., etc. Et je vous propose d'écouter, donc, pour commencer, la fantaisie de Schubert, fantaisie dite inachevée. Alors, c'est une fantaisie en do majeur. Vous savez que Schubert, il y a eu une symphonie inachevée aussi. Alors Schubert est mort dramatiquement jeune, puisqu'il est mort à 31 ans, ce qui est absolument incroyable, le génie de ces gens-là, que ce soit Mozart, que ce soit Schubert et d'autres encore, qui ont composé un corpus d'œuvres extraordinaire d'une qualité prodigieuse que nous avons encore dans les oreilles et dans la tête. Et voilà. Alors, donc, au moins deux œuvres inachevées, semble-t-il. Ce n'est pas tellement la mort qui l'a empêché de l'achever, mais c'est un certain esprit assez brouillon qui fait qu'il ne rangeait pas très très bien ses affaires. En tout cas, je vous propose donc d'écouter cette fantaisie en ut mineur, interprétée par un jeune pianiste, par Jérôme Ducrot. Thank you. Voilà, et vous comprenez pourquoi ça s'appelle une fantaisie inachevée. Ah, on reste au milieu d'une mesure. Si vous êtes amateur de piano, ou si ça compte pour vous la sonorité, donc il joue ça sur un beau piano Steinway. Vous savez, c'est à la mode, enfin un peu moins maintenant, mais c'était à la mode de jouer ça sur des pianofortés qui étaient contemporains, des instruments qui dataient de 1820-1830. Moi, je trouve que ça n'apporte rien. Et je trouve que c'est bien plus beau sur un beau piano contemporain. Alors, on change d'instrument, d'époque, de musicien. Et nous allons écouter un extrait du concerto de Jacques Ibert par Emmanuel Pahut. Alors, il y a une belle, grande tradition des instruments avant français. Voilà. Toute la planète joue de la flûte avec la sonorité de Jean-Pierre Rampal. Toute la planète joue de la trompette avec la sonorité de Maurice André. Et il y a eu aussi des oboïstes enfin, extrêmement célèbres. Il y a eu Maurice Bourg et d'autres. Voilà, il y a une belle tradition des vents français. Et Emmanuel Pahut reprend cette belle tradition. Il n'est pas mauvais parce que c'est la flûte solo de la Philharmonie de Berlin, carrément. Donc, peut-être le meilleur orchestre du monde, en tout cas un des trois ou quatre premiers orchestres du monde. Et puis là, donc, le concerto de Jacques Ibert, 1890-1962, musicien français qui n'est pas très très connu, mais enfin un petit peu quand même. Il a écrit des opéras, beaucoup de musique de chambre, et alors ce concerto pour flûte, que tous les flûtistes connaissent et redoutent parce que c'est un concerto qui est extrêmement difficile. Et en particulier, il y a un contre-fa, celui qui est à la, je ne sais pas, ça doit être la dixième ligne supplémentaire au-dessus de la portée. Et il faut bien dire que personne ne sait quel doigté faire pour sortir ce fa. Et quelquefois, on ne l'entend pas très bien. Alors, nous allons écouter donc le premier mouvement de ce concerto de Jacques Ibert pour flûte avec Emmanuel Pahut à la flûte et l'orchestre Tonhalle de Zurich sous la direction de David Zinman. Thank you. Alors, donc, vous avez entendu le début de ce concerto de Jacques Ibert, qui est absolument redoutable, et que Emmanuel Pahud joue avec une précision qui est extraordinaire. Vraiment, tout ça est très très beau. On change d'atmosphère, alors, mais j'allais dire complètement. Vous vous rappelez sans doute le début du film La mort à Venise, film de Visconti, qui avait été tourné d'après le roman. Enfin, c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt une grande nouvelle de Thomas Mann, qui a le même titre, La mort à Venise. Et alors, c'est très drôle parce qu'en allemand, la mort, c'est masculin. Et voilà, donc c'est le mort à Venise. Mais... Et le début, si vous vous en souvenez, on voit Aschenbach qui est un écrivain et qui va, alors inspiré par la figure de Gustav Mahler, et qui va passer quelques jours à Venise où là, il sera rattrapé par le choléra. Enfin, et le début, c'est l'adagietto de la 5e symphonie de Gustav Mahler. Je vous propose d'écouter cet adagietto joué, interprété par encore la Tonhalle Orchester de Zurich, mais dirigé par Georg Solti. Voilà de la musique romantico-romantique, surtout que l'interprétation de Georg Solti est extrêmement impressionniste et a été qualifiée de dégoulinante par certains. Mais quelle belle musique! Bon, alors, premier ouvrage de cette émission, de ces barricades, Virginie Linhart, L'effet maternel. Alors, Virginie Linhart a été assez connue il y a une vingtaine d'années, je dirais, parce qu'elle a fait publier un livre qui s'intitulait « Le jour où mon père s'est tu », où elle racontait comment son père, Robert Linhart, qui était à Normalsup, rue d'Ulm, et qui était un type brillantissime, avait fondé l'UJCML, l'Union des jeunes communistes marxistes-léninistes. C'était des gens qui étaient opposés au Parti communiste français et ils étaient très partisans de la Chine. Et ce sont eux qui ont, là, Robert Linhart, mais et d'autres, qui ont élaboré la théorie de ce qu'on appelle les établis. Alors les établis, c'était des gens qui étaient allés s'établir en usine. Alors par exemple, la mère de Virginie Linhart a travaillé pendant un moment dans une usine où on emballait des charcuteries sous plastique. Robert Linhart a travaillé lui-même chez Citroën, je ne sais plus où, à Poissy, je crois, etc. Leur idée, c'était qu'ils devaient se fondre dans les masses et les pousser à faire la révolution. Ils ont bien entendu tous échoué. Certains y ont laissé beaucoup de plumes et d'autres ont réussi à se tirer de ce mouvement assez tôt. Alors, pour Robert Linhart, c'est une chose terrible parce que ça a coïncidé avec la maladie mentale qui fait qu'il était bipolaire, mais à un point inimaginable. Et un jour, il s'est, d'où le titre du livre de sa fille Virginie, « Le jour où mon père s'est tu », Robert Linhart s'est arrêté de parler, n'a plus dit un mot. Et effectivement, c'est une chose qui arrive. J'ai pu, hélas, le constater auprès de gens de mon entourage. Les gens qui sont bipolaires, quand ce qu'on appelait autrefois la psychose maniaco-dépressive, et quand ils sont en phase dépressive, ils ne disent rien du tout, jamais, et c'est quand même très difficile pour eux. Bref, on a fait un film du livre de Virginie Linhart avec le comédien Swann Harlow qui interprétait le rôle de Robert Linhart. Alors, là-dessus, elle raconte son enfance et elle raconte qu'elle est allée trouver des enfants d'établis et pour leur demander comment ils avaient vécu tout ça. Généralement, pas bien du tout, parce qu'au nom de la libération dans tous les domaines, ces gamins poussaient comme des herbes folles, sauf pour les études. Et effectivement, Virginie Linhart rappelle qu'un beau jour, son père met un costume, une cravate, et va trouver le proviseur du lycée Victor Duruy pour que sa fille entre en classe préparatoire, lui expliquant que lui-même était un normalien de la rue d'Ulm et tout ça. Ah, pour les études, ils ne rigolaient pas et ils ont tous fait de très bonnes études. Mais pour le reste, on les laissait. C'était n'importe qui, tout le monde baisait avec n'importe qui. Enfin bref, il n'y avait plus aucune espèce de limite. Et alors, donc, dans l'effet maternel, qui est le livre dont il est question aujourd'hui, Virginie Linhart raconte donc là aussi son enfance, avec une grande tendresse pour son père, qui est tombé grave, qui a fait des mois et des mois et des mois d'hôpital psychiatrique. Enfin, c'est pas du tout, c'est pas de la rigolade. Hein. Et sa mère, qui est une personne incroyable, et elle raconte comment elle rencontre l'ex-amant de sa mère, qu'il a 20 ans de plus qu'elle, et il l'installe chez lui. Il a un très bel appartement. Qui donne sur le Luxembourg, et il l'installe chez lui, et ils vivent une période d'amour merveilleuse, jusqu'au moment où, elle tombe enceinte, et elle tombe enceinte de jumeaux. Et à ce moment-là, ce personnage qu'elle appelle E, point, la lettre E, ce personnage l'abandonne, lui dit « Écoute, je ne peux pas assumer ça, je t'avais dit, donc soit tu te fais avorter, voilà, soit je te quitte. » Elle dit « Bah non, il n'en est pas question, je les garde. » Donc, voilà. Alors, elle apprendra plus tard que l'un de ces fœtus est atteint d'une maladie terrible, d'une anomalie terrible qui est... Alors, c'est la trisomie, non pas la trisomie 21, mais c'est la trisomie 13, qui est un truc encore pire. Bref. Et elle raconte que, donc comment... en même temps, sa mère, qui a une attitude extrêmement bizarre, très centrée sur elle-même, très, très autocentrée, et qui considère que le monde entier est à son service, personnage d'un égoïsme prodigieux. Voilà. Alors, c'est un livre très intéressant. Pourquoi ? Parce que, d'abord, elle écrit bien. Alors, Virginie Linard, elle réalise des documentaires. Alors, elle a fait un film sur les établis, mais elle a fait... Alors, son dernier documentaire, je crois, c'est un documentaire sur Brigitte Macron. Voilà. Donc, elle a beaucoup tourné de documentaires, de biographies, un peu comme notre compatriote, plutôt, Patrick Jeudy, qui a tourné beaucoup sur les Kennedy, sur Marilyn Monroe, etc. Alors, donc, voilà, c'est intéressant parce que, d'abord, donc, elle écrit bien, Virginie Linard, c'est agréable à lire. C'est un style assez fluide, mais pas trop familier, donc très bien. Et c'est intéressant aussi, d'un point de vue socio-psychologique, de voir comment cette époque a marqué une rupture, mais une rupture qui a été sans doute bénéfique d'un certain côté, mais les gens, elle le dit à un moment, elle dit « Nous, les enfants de cette génération, nous l'avons payé cher ». Voilà, les enfants, disons, les enfants des boomers, c'est-à-dire qui ont actuellement entre 50 ans, 45, 50, 55. Et puis, deux autres points que j'ai trouvé intéressants, les gens dont elle parle, et elle-même, ça fait partie de ces gens qui sont, vous savez, comme on dit, parfois ruinés, mais jamais pauvres. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des gens qui leur trouvent un appartement quelque part. Là, elle raconte comment elle trouve presque par hasard une femme très riche et très sympathique qui la prend en amitié et qui lui propose de l'héberger à New York pendant 3 mois. Voilà, ça c'est des trucs qui nous arrivent jamais, nous. Mais elle, oui, sa mère, oui, les gens qu'elle connaît, oui. Hein. Donc ça c'est intéressant aussi d'un point de vue sociologique, un peu agaçant aussi parfois. Et enfin, la dernière chose, c'est que on se demande comment des gens aussi brillants que son père, Robert Linard, mais d'autres aussi, comme Benny Lévy, qui est décédé il y a peu, mais on se demande comment des gens aussi brillants, qui étaient tous entrés à Normale Sup et qui étaient dans le département de philo de Normale Sup, et je vous jure que c'est pas facile d'entrer à Normale Sup, mais d'entrer au département de philo c'est encore plus difficile, comment ces gens-là ont pu se laisser séduire par le maoïsme, toutes ces conneries, ces monstruosités qui ont eu lieu à l'époque. Voilà, donc Virginie Linard, L'effet maternel, c'est aux éditions Flammarion, et bien sûr, c'est en poche aussi. Thank you.
Thank you.
Voilà, vous avez entendu un extrait de la Wanderer Fantasy de Franz Schubert, interprété toujours par Jérôme Ducrot. Alors, vous savez, on dit toujours qu'un seul tréma a séparé Gluck du bonheur et Handel des marchandises, parce que en allemand, Gluck, c'est le bonheur, et Christoph Willibald Gluck, sans tréma, sans umlaut, c'est pas le bonheur, mais c'est à peu près la même chose. Pareil pour Handel sans tréma, Handel, c'est les marchandises. Bon, alors, Gluck, un très très grand compositeur d'opéra, et en particulier, peut-être le plus connu de ses opéras, c'est Orphée et Eurydice, qui a été donné d'abord en français. Et je vous propose d'écouter là le ballet. Alors, ça se termine plutôt bien dans l'opéra de Gluck. Donc, je vous propose d'écouter. Le ballet des ombres heureuses, lent et très doux, interprété par Reinhard Goebel, qui dirige l'orchestre de l'Opéra Royal.
Thank you.
Voilà, eh bien vous avez entendu le ballet des ombres heureuses tiré de l'Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck. Tous les flûtistes connaissent ce morceau qui est très beau, assez facile et qu'on a tous travaillé plus ou moins. Voilà, ça, c'est un petit morceau d'audition d'élèves souvent. Donc voilà, c'est un bon souvenir j'espère pour tout le monde. Alors, dernier livre de cette émission. Je vous ai dit le autre livre de Virginie Linard, Une sale affaire. Alors pourquoi ? Eh bien voilà, un beau jour, la mère de Virginie Linard et l'amant qu'elle désigne sous la lettre E lui envoie aux éditions Flammarion un référé pour lui interdire de publier le livre dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, à savoir L'effet maternel, ou en tout cas en réclamant la suppression d'un certain nombre de pages. Et alors tenez-vous bien, en réclamant la suppression de 68 pages. Et Virginie Linard, elle dit quand même, ça ne peut pas être un hasard. Elle, pour qui 68 a eu un effet quand même assez traumatisant et les post-68ards ne lui ont pas facilité la formation, eh bien, elle dit, voilà, c'est 68 pages. Alors, le référé, c'est non pas de juger au fond, c'est-à-dire est-ce que ces 68 pages sont véritablement attentatoires à l'intimité et à la vie privée de personnages. Et c'est ce que donc celui qui l'avait abandonnée enceinte de jumeaux et qui ne lui avait plus donné signe de vie, celui qui avait été l'amant de sa mère, et la mère de Virginie Linard la signe en référé pour que le juge ordonne, et avec c'était pas rien du tout, il demande 500 euros par jour si jamais les éditions Flammarion décident de publier malgré tout le livre. Et alors, l'histoire du référé, donc, je répète, on ne juge pas au fond, c'est-à-dire on ne juge pas si effectivement il y a atteinte à la vie privée. On juge si c'est une atteinte suffisamment grave et exceptionnelle pour qu'il y ait lieu d'interdire immédiatement la publication du livre. Ce sont des choses qui n'arrivent que très rarement. Les référés en ce domaine. Voilà. Et alors, donc, Virginie Linard a écrit à partir du procès du livre L'effet maternel, tout le déroulement du procès, toute la procédure judiciaire, la réaction des gens. Alors, par exemple, on lui réclame, son avocat lui dit, il faut que tu recueilles des témoignages de gens qui vont attester que tu ne donnes aucun élément qui puisse révéler de quelle personne il s'agit quand tu parles de ce « e » qui s'est si mal conduit. Alors, donc, elle va voir tout un tas de gens. Elle raconte que certains l'accueillent très, très bien, le font très volontiers. Et puis d'autres ne veulent rien savoir. Une très jolie lettre qu'elle reproduit de Olivier Rollin, dont j'ai souvent parlé à cette antenne, de Olivier Rollin, qui lui dit que, bien sûr, il faut absolument qu'elle publie ce livre, etc. Donc, ce livre, Une sale affaire. Alors, c'est un peu foutraque, surtout si on n'est pas, ce qui est mon cas, si on n'est pas spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et de la propriété littéraire et artistique. Mais enfin, on y arrive quand même assez bien, on suit assez bien. Et donc, on sait ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe. Eh bien, c'est que Virginie Linard a gagné, donc elle publie texto sans enlever une seule ligne de son livre, car le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'interdire le livre et en tout cas pas en référé. Et ce qui est remarquable, c'est que donc c'est un livre, c'est pas un gros livre, c'est un livre qui fait 150 et quelques pages, mais elle dit en une seule phrase, elle dit ils ont perdu leur procès. Donc, le tribunal a décidé que il n'y avait pas lieu. Ils ne se sont pas pourvus au fond, c'est-à-dire ils n'ont pas demandé au tribunal de juger s'il y avait ou pas par la suite. Et elle dit ça, elle règle ça en une phrase et c'est tout. Voilà. C'est un livre qui se lit avec plaisir aussi, parce que je dois dire que les personnages, les autres personnages, sa mère d'une part et l'ex-amant de sa mère, sont quand même assez antipathiques et on est bien content qu'ils s'en prennent un peu plein la figure. Vous savez, un peu comme quand il y a dans un film où le méchant est puni à la fin. C'est ce qui se passe. Virginie Linard, Une sale affaire, c'est édité en point. Voilà, puis si vous voulez l'édition originale, c'est chez Flammarion. Eh bien, je m'aperçois qu'il faut qu'on se quitte. Voilà, c'est la fin de cette émission des Barricades Mystérieuses. On se retrouvera la semaine prochaine. En attendant, belle journée. Vous êtes toujours sur RTF 95.4 et j'espère que vous allez y rester.